Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Augmenter l'énergie propre pour rendre le marché du carbone indonésien compétitif, a affirmé le JK. Smesco facilite l'accès au marché pour plus de 13 000 MPME. Forum Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines doit donner la priorité à la connectivité pour encourager l'économie. L'Union européenne et l'ASEAN signent un accord sur la gestion des catastrophes. Ministère de la Communication et de l'Informatique réalise une étude spéciale sur la question X basée en Indonésie. Indonésie et Kenya signent l'accord GBFA du G20. UNHAS et le Consul général d'Australie présentent une exposition sur les relations entre les deux pays. Voici le journal complet. Le directeur de la supervision financière des produits dérivés et des bourses de carbone de l'Autorité indonésienne des services financiers, OJK, Lufaldi Hernanda, a déclaré que l'augmentation de l'énergie propre est un moyen d'accroître la compétitivité du marché indonésien du carbone, en particulier dans les régions asiatiques. Il a déclaré que de nombreux investisseurs étrangers souhaitent investir leur capital en Indonésie, mais qu'ils hésitent car ils considèrent à quel point les sources d'énergie disponibles sont propres. Lufaldi Hernanda à Jakarta, jeudi 17 octobre, a demandé aux parties prenantes indonésiennes de se concentrer davantage sur le développement de diverses sources d'énergie propres pour attirer les investissements. Lufaldi a déclaré qu'il existe désormais de nombreux acteurs industriels en Indonésie qui effectuent des calculs de référence en matière d'émissions. Il est également optimiste quant au fait que l'Indonésie pourrait adopter un écosystème complet d'échange de carbone au-dessus de l'année prochaine. Selon l'application de calcul et de la déclaration des émissions d'électricité, APPLE Gatrik, du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, le volume des transactions carbone pour les centrales électriques à vapeur ou PLT ou au charbon via le système d'échange de quotas d'émissions ETS atteint 7,04 milliards de tonnes d'équivalent CO2 ou CO2E avec une valeur de transaction de 82,87 milliards de roupies en 2023. L'Agence de services de marketing du ministère des coopératives et des PME, Smesco Indonesia, a mis en œuvre divers programmes pour la période 2020-2024 pour surmonter les obstacles rencontrés par les MPME, notamment en matière d'accès au marché et de l'égalité des affaires. Le président directeur de SMESCO, Winter Rahmada, à Jakarta, jeudi 17 octobre, a déclaré que SMESCO avait facilité la commercialisation des produits des MPME à travers divers canaux tels que le pavillon provincial, les ventes en ligne et hors ligne, ainsi que la collaboration avec Kimia Pharma. À ce jour, pas moins de 13 767 MPME ont été aidés dans la commercialisation de leurs produits. Pour étendre sa portée sur le marché, SMESCO organise également activement divers événements tels que Indonesia Digital Meetup in Bayor, J-Cloth Year End Sale et Indonesia Clothing Summit. Winter a déclaré qu'entre 2020 et 2024, pas moins de 15 000 40 MPME ont participé à divers événements organisés par SMESCO. Le consul indonésien à Tawau en Malaisie, Aris Heru Utomo, a déclaré que le vacuum de la région de croissance de l'Est de l'ASEAN, de Brunei Darussalam, Indonésie, Malaisie, Philippines, BIMPEAGA, doit donner la priorité au développement des infrastructures du secteur des transports, en particulier de la connectivité aérienne, afin d'encourager la coopération économique sous-régionale. Dans un reportage d'Antara jeudi 17 octobre, Aris a déclaré que donner la priorité au développement des infrastructures de transport dans les zones frontalières telles que le Kalimantan Nord et Sabah était très important pour ouvrir la connectivité. En examinant le développement de la capitale Nusantara, IKN, dans le Kalimantan Oriental, il a déclaré qu'il était nécessaire d'envisager l'ouverture d'une route aérienne entre Balikpapan et Tawau. Aris, qui est l'un des délégués indonésiens à la réunion du BIMPEAGA à Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie, a également déclaré que la route Makassar, Sulawesi du Sud, jusqu'à Tawau avait également un grand potentiel économique, étant donné que de nombreux habitants de Tawau sont issus de tribus de la province. Il espère que le forum pour encourager la réouverture de la connectivité aérienne qui relie Tarakan à Tawau avant la pandémie de COVID-19. La Commission européenne, par l'intermédiaire de la Division européenne des opérations de protection civile et d'assistance humanitaire, DGECHO, et le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire dans la gestion des catastrophes naturelles, Centre AHA, ont signé un accord de coopération à Jakarta jeudi 17 octobre. Selon Antara, le commissaire européen chargé de l'assistance humanitaire et de la gestion des crises, Yanez Lenarczyk, a déclaré que l'accord entre l'Union européenne et l'ASEAN concernant la gestion des catastrophes donnerait la priorité à trois efforts, à savoir l'échange de connaissances, l'échange de personnes et la formation conjointe. Ces trois efforts doivent être déployés pour renforcer davantage la coopération de longue date entre l'Union européenne et le centre AHA. Yanis a déclaré que l'accord garantirait des arrangements administratifs pour la coopération dans le renforcement des capacités de gestion des catastrophes et d'intervention d'urgence. L'accord garantit également une collaboration qui exploite les forces et les capacités des deux organisations dans les domaines de la gestion des catastrophes et de l'aide humanitaire. En outre, Yanis a déclaré que la signature visait également à renforcer la capacité du centre AHA en tant que principale institution de coopération régionale de l'ASEAN dans le domaine de la gestion des catastrophes. Le ministre de la Communication et de l'Informatique, Budi Aris Setiadi, a déclaré que ce ministère menait actuellement une étude spéciale afin que la plateforme de médias sociaux américaine X puisse avoir un bureau officiel en Indonésie. Selon Antara, cela est dû au fait que X compte actuellement de nombreux utilisateurs fidèles en Indonésie. Une approche de communication appropriée est donc nécessaire pour que l'entreprise d'Elon Musk puisse avoir un bureau en Indonésie. Budi à Jakarta, jeudi 17 octobre, a déclaré que l'étude réalisée par le gouvernement reflétait l'expérience d'autres pays comme le Brésil. Au Brésil, l'accès de X a été bloqué car il a retiré ses représentants officiels avant août dernier. Un mois plus tard, X a déclaré qu'il suivrait les réglementations du gouvernement brésilien pour rouvrir l'accès à la plateforme. Pendant ce temps, le directeur général des applications et de l'informatique du ministère de la Communication et de l'Informatique, Hoki Situnkir, a déclaré que sa partie veille à ce que la coordination se poursuive avec X. Il a souligné que l'Indonésie reste ferme dans sa demande à X d'ouvrir une représentation officielle en Indonésie afin de maintenir la justice pour les autres plateformes numériques. L'Indonésie et le Kenya ont signé les articles d'accord AOA de l'Alliance mondiale de finances mixtes, GBFA du G20, initié par l'Indonésie pour soutenir le financement de la réalisation de projets climatiques et atteindre les objectifs de développement durable. Selon Antara, la signature a été réalisée par le ministre indonésien coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, et le premier ministre du Kenya, Musalia Mudavadi, à Jakarta, jeudi 17 octobre. Au cours de l'événement, Luhut a exprimé sa gratitude au Kenya pour son engagement et a estimé que d'autres membres le rejoindraient bientôt. Luhut a déclaré que les pays en développement sont confrontés à un déficit de financement annuel pouvant atteindre 3 billions de dollars américains pour l'action climatique et la réalisation des objectifs de développement durable. Cet écart nécessite des efforts plus importants pour accroître les investissements financiers, mettre en œuvre des mécanismes de financement innovants et obtenir l'engagement des gouvernements et du secteur privé. GBFA représente une initiative innovante visant à appliquer les principes de financement mixte, notamment en combinant des capitaux philanthropiques, publics et privés, pour soutenir des transitions respectueuses d'environnement dans le pays en développement et insulaire et la coopération sud-sud. L'Université Hasanuddin Unhas Makassar et le Consulat général d'Australie à Makassar, dans le sud de Sulawesi, travaillent ensemble pour présenter une exposition intitulée « De nation, un métier est né ». Cité par Antara, l'exposition qui faisait partie de la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Australie et l'Indonésie s'est tenue jeudi 17 octobre à la cour du laboratoire AIC, Campus Unhas, Tamalan Ria, Makassar. Le recteur d'Unhas, Jamaluddin Jumpa, dans son discours a apprécié et remercié la collaboration et la confiance accordée par le consul général d'Australie pour présenter cette exposition. Selon lui, cette exposition donnera un aperçu des relations historiques qui existent entre l'Indonésie et l'Australie. À la même occasion, le consul général d'Australie à Makassar, Todd Diaz, a déclaré que cette exposition racontait l'histoire du soutien de l'Australie à l'Indonésie. J'oublie à l'indépendance indonésienne. Cette exposition présente une collection de coupures de presse, de photographies, des croquis de l'artiste de guerre australien Tony Rafti et des copies de lettres officielles du gouvernement et des citoyens australiens. Cette exposition est prévue pour durer jusqu'au 30 octobre. Ces résultats, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh, Bonsoir à tous. Voici le commentaire d'aujourd'hui, dont le titre est « Les relations bilatérales entre l'Inde et le Canada se réchauffent ». Les relations entre l'Inde et le Canada se sont récemment réchauffées. Le Canada a expulsé 6 diplomates indiens après qu'une enquête menée par la police fédérale a révélé l'implication d'agents du gouvernement indien dans une campagne de violence contre des dissidents sikhs indiens au Canada. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré lundi que la décision d'expulser les diplomates indiens était basée sur des preuves suffisantes, claires et concrètes identifiant 6 personnes préoccupantes impliquées dans l'affaire du meurtre d'un militant sikh canadien, Hardeep Singh Najjar, en juin 2023. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d'une conférence de presse lundi, a déclaré que la gendarmerie royale du Canada a trouvé des preuves claires et convaincantes que des agents indiens étaient impliqués dans des activités qui menaçaient la sécurité publique au Canada. 2 jours après que le Canada a expulsé 6 diplomates indiens, le premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé mercredi l'Inde d'avoir commis une erreur fatale en commettant des actes de violence, notamment des meurtres et des extorsions sur le sol canadien. Trudeau, comparaissant devant une enquête fédérale sur l'ingérence étrangère, a déclaré qu'il y avait des indications de plus en plus claires d'activités criminelles à New Delhi, notamment le ciblage des dissidents sikhs indiens au Canada. L'Inde a rejeté les allégations du gouvernement canadien, les qualifiant d'absurdes. En réponse à l'expulsion des diplomates indiens, le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré qu'il expulserait 6 diplomates canadiens, dont le haut commissaire par intérim, et leur donner jusqu'à samedi pour quitter le pays. Le différend entre l'Inde et le Canada a commencé en 2023. Les récentes accusations du gouvernement canadien accompagnées de l'expulsion des diplomates indiens ont fait sombrer encore davantage les relations bilatérales entre les deux pays jusqu'à leur point le plus bas. En fait, au cours des années précédentes, les deux pays se sont reconnus comme partenaires stratégiques. Le Canada reconnaît l'énorme potentiel de l'Inde dans sa stratégie Indo-Pacifique 2022. Les gouvernements de l'Inde et du Canada doivent engager un dialogue sérieux et ouvert sur les problèmes qui se posent. S'il n'y a pas de dialogue, il est à craindre que cela se propage et ait un impact sur les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. C'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 18 octobre 1967. Une fusée de l'Union soviétique a réussi à atteindre Vénus. La fusée de recherche Venera 4 de l'Union soviétique a atteint avec succès la planète Vénus le 18 octobre 1967. Venera 4 était un véhicule lancé dans le cadre du programme Venera, le projet spatial de l'Union soviétique visant à explorer la planète Vénus. Ce véhicule a également été enregistré avec le premier véhicule terrestre à atteindre avec succès une autre planète. Selon les résultats de l'analyse de Venera 4, on sait que la température sur Vénus est très chaude, que l'atmosphère est beaucoup plus dense et qu'il est possible que Vénus ait perdu la majeure partie de son eau depuis longtemps. Le 18 octobre 1992, l'accident d'avion du vol 5601 de Merpati Nusantara Airlines. Merpati Nusantara Airlines du vol 5601 est le vol domestique en Indonésie, de l'aéroport international Ahmad Yani Semarang Java Central à l'aéroport international Hussein Sastra Negara Bandung Java Occidental. Le 18 octobre 1992, l'avion CN-235 en route vers Bandung s'est écrasé sur le mont Puntang, dans la région de Bandung, à l'ouest de Java. L'avion explosé à l'impact, 27 passagers sont morts et 4 membres d'équipage à bord. Le 18 octobre 2005, l'attentat à la bombe à Karachi, au Pakistan. Un attentat à la bombe contre un cortège transportant l'ancien premier ministre du Pakistan, Benazir Bhutto, s'est produit à Karsas, Karachi, Pakistan. Le 18 octobre 2005, l'attentat à la bombe a eu lieu alors que Benazir Bhutto était accueilli après son retour d'exil en Angleterre. L'attentat à la bombe a fait au moins 180 morts pour la plupart des membres du Parti du peuple pakistanais dirigé par Bhutto et 500 personnes ont été blessées. Benazir Bhutto a survécu à cet accident. Mais environ 2 mois plus tard, en décembre 2007, alors qu'il assistait à un rassemblement de son parti, un homme armé a ouvert le feu sur son véhicule par balles. Une bombe a ensuite explosé près de la voiture, tuant plus de 20 personnes et en blessant 100 autres, y compris Bhutto. Benazir Bhutto est décédé des suites de blessures à la tête causées par la force de l'explosion. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Gemar sekali kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh, senyum entah untuk siapa, menebak
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie. Donc le titre est « Le ministère de l'Industrie encourage le renforcement de l'agro-industrie dans les régions ». Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie, encourage la croissance de l'agro-industrie dans chaque région afin d'accroître la croissance économique régionale. Cette industrie agroalimentaire comprend sept secteurs principaux tels que les industries de l'alimentation, des boissons, des produits de jardinage, du papier, de l'imprimerie, de la transformation de bois et des cônes qui ont enregistré une croissance moyenne de 4,84% jusqu'en 2024. Lors du Forum économique de Kapuas organisé par la Banque d'Indonésie, section de Kalimantan Occidental, mercredi 16 octobre 2024, le directeur de l'industrie des produits alimentaires et des plantations au ministère de l'Industrie, Setia Diakta, a déclaré que la croissance est meilleure avec des réalisations en 2023 et a contribué à plus de 51% au produit intérieur brut PIB de l'industrie de transformation. En outre, le secteur agricole a également réalisé un excédent commercial de 17,91%. Actuellement, l'investissement total de l'industrie agroalimentaire s'élève à près de 90 billions de rupiah. Selon Setia Diakta, le secteur agricole a une grande valeur concurrentielle, en particulier dans l'industrie de l'huile de palme, dont l'Indonésie est le plus grand producteur mondial. Il a également affirmé l'importance de protéger l'industrie de palme des campagnes noires. La production indonésienne d'huile de palme en 2023 a atteint 250 millions de fruits frais, avec une production d'huile de palme brut ou CPO allant de 50 à 51 millions de tonnes. Cependant, Setia a déclaré que le principal défi auquel l'industrie agroalimentaire est confrontée est la dépendance à l'égard des matières premières et des matières premières provenant de l'étranger, principalement dans le domaine des aliments et des boissons. Le ministère de l'Industrie a également admis qu'il restait encore du travail à faire sur la capacité de l'industrie agroalimentaire qui n'a pas encore complètement récupéré comme avant la pandémie de COVID-19. L'amélioration de la productivité est devenue l'objectif principal, principalement dans le secteur de l'huile de palme. Selon Setia, la productivité des plantations privées d'huile de palme est de 20 à 24 tonnes par hectare, alors que celle des plantations d'État n'est que de 18 à 20 tonnes par hectare. Améliorer la productivité est un défi de taille, surtout dans les plantations communautaires qui ne produisent que 6 à 8 tonnes par hectare. Le ministère de l'Industrie s'est engagé à renforcer la structure industrielle et l'écosystème de l'industrialisation par la recherche, l'innovation, l'amélioration des normes de main d'œuvre et l'application de nouvelles technologies. Setia a également mis en avant la politique qui soutiendrait le secteur agricole, notamment les incitations à l'investissement par le biais d'un programme d'abattement fiscal et de congé fiscal. Dans un contexte de défis mondiaux, comme le règlement de l'Union européenne sur la déforestation, EUDR, Setia Diakta a déclaré que le ministère de l'Industrie continuerait à essayer de maintenir la valeur de compétitivité de l'industrie du palmier à huile. En 2045, l'objectif de production indonésienne d'huile de palme pourrait atteindre 100 millions de tonnes, soit le double de la production actuelle. C'est auditeur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu saat kau pulang.
pulang kembali, pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati, jangan mengetuk dan memohon masuk, jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah kuncimu, kau bukan penghuni hatiku lagi.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel intitulée « Boisson typique de Boh Manokweng d'Aceh ». Si vous voyagez dans la région d'Aceh, essayez de goûter aux boissons traditionnelles. Son nom est Boh Manokweng. Boh Manokweng, ou souvent abrégé en BMW, est l'une des spécialités de café d'Aceh. Ce nom de cette boisson vient des mots Boh Manok signifiant poulet et Weng signifiant rotation. Cette boisson est composée d'un mélange de café, des œufs de poule fermier et des jeunes noix d'arec avec créé un goût unique. Les ingrédients utilisés pour préparer cette boisson font depuis longtemps partie des traditions du peuple d'Aceh. La fabrication du Boh Manokweng est unique parce que le vendeur utilise une perceuse. Donc, le forêt est remplacé par un batteur à œufs. Il y a aussi ceux qui utilisent un mixeur. L'utilisation de cet outil produit une meilleure vitesse que l'utilisation d'un fouet à main afin que les œufs creusent, dilatent et deviennent mousseux. Après que l'œuf est mousseux, mélangez-le avec le café. Pendant ce temps, une jeune noix d'arec est servie en accompagnement. s'il est fabriqué à partir des œufs de poulet, le bœuf manokwen ne sent pas le poisson. Il a un goût rafraîchissant avec une texture unique. Cette boisson typique d'Aceh présente également des avantages. Les œufs de poule fermier augmentent l'énergie, tandis que les jeunes noix d'arec contribueraient à améliorer la digestion. D'habitude, ce café est consommé avec dolman, une collation à base de riz gluant, de lait de coco cuit dans du bambou. Pour ceux d'entre vous qui visitent Aceh, cette boisson peut être trouvée dans divers cafés traditionnels jusqu'au café moderne. Cette boisson propose désormais divers variants de saveurs. Il existe des variants de saveurs avec un mélange de thé, de lait en poudre, des demandes sans aucun mélange ou seulement des œufs et du sucre. Concernant le prix, cette boisson traditionnelle coûte entre 18 000 jusqu'à 20 000 rupiah par verre. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku, setulus hatiku, dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuan. Ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya. Hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti. Mengerti.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter des étudiants de l'Université Gajah Mada fabriquent du ciment à partir de déchets de coquilles de coquillages. Une équipe d'étudiants de la Faculté d'économie et de commerce de l'Université Gajah Mada de Yogyakarta, le membre du programme de créativité étudiante pour l'entrepreneuriat, a transformé les déchets de coquilles de coquillages en ciment respectueux de l'environnement. Le produit s'appelle InnoCem, qui est l'abréviation de ciment instantané, innovant et efficace. L'un des membres de l'équipe, Vidyas Putri Belva Akila, a déclaré que le développement de produits InnoCem était commencé avec leur préoccupation quant au fait que les bâtiments produisent environ 37% des émissions de carbone, parce que la construction est réalisée à partir de produits en ciment à base de calcaire et le processus de gestion passe par des étapes qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. On espère également que le développement de produits d'InnoCem pourra soutenir la réalisation d'une construction verte durable en Indonésie. En outre, cela peut également aider à surmonter les problèmes environnementaux en traitant les déchets de coquilles de coquillages qui n'ont pas encore été utilisés de manière optimale. Le choix des déchets de coquilles de coquillages comme matière première pour la fabrication du ciment est dû au fait que les coquilles contiennent une teneur similaire au calcaire, à savoir l'oxyde de potassium. Dans un certain nombre de publications, il indiquait que les coquilles de coquillage contiennent des niveaux assez élevés d'oxyde de potassium. Les déchets de coquilles de coquillage sont actuellement très abondants, mais n'ont pas été beaucoup utilisés et ne font que s'accumuler sous forme de déchets. La teneur en oxyde de potassium de coquilles de coquillage est assez élevée pour pouvoir être utilisée comme substitut au calcaire dans la fabrication de ciment. Actuellement, les produits InnoCem sont commercialisés en ligne via la plateforme Marketplace et le site officiel d'InnoCem. La présence de ce produit n'est pas seulement une nouvelle avancée dans le soutien à la réalisation d'une construction verte respectueuse de l'environnement, mais aussi une solution pour réduire les déchets de coquilles de coquillage. Chers amis, c'est à la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Don't ever, you go away, sit down from heaven. so wrong, and my so strong. It all happened like magic. I'm intoxicated and now I'm home. Ooh, baby, you're the one I really want.
To the fall, do this one more time. Let's go.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.